Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission. Les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons sur Radio Grand Ciel Lydie Delanou qui vient nous présenter son ouvrage Noël Ballet l'Africain. Avec et sans Brasa, chez l'éditeur parisien L'Harmattan, dans la collection Biographie, série 19e siècle. Lydie Delanou, bonjour.
Bonjour.
Alors, Lydie Delanou, présentez-vous, s'il vous plaît, pour nos auditeurs de Radio Grand Ciel.
Je suis née en Eure-et-Loire, en Beauce très précisément, il y a bien longtemps. J'ai eu une première vie pendant laquelle j'étais professeure de français et d'histoire-géographie dans un collège de Beauce, le collège de Vauves plus précisément. Et puis j'ai entamé la retraite venue ma deuxième vie, ma seconde vie en principe. Et donc je suis devenue auteure. Voilà. Et je me suis lancée principalement dans l'histoire locale.
Dans l'histoire locale, oui. Et en particulier là pour cet ouvrage, concernant donc Noël Ballet. Alors tout le monde connaît la rue Noël Ballet à Chartres, on peut dire que c'est l'une des rues les plus connues de Chartres, une artère commerçante, avec d'ailleurs une très belle librairie, celle Absolument. De l'Esperluette, oui. Il y a également la FNAC. Alors, pourquoi vous intéressez à ce personnage Noël Ballet ?
Je crois que c'est d'abord lié au fait qu'il ait été le second de Brasa. Je connaissais un petit peu Pierre Savorian de Brasa. Quand j'ai découvert que Noël Ballet avait été son second, je me suis dit ça peut être intéressant. D'autant que j'ai toujours bien aimé le continent africain. C'est un continent qui me plaît, qui m'attire. J'y suis allée pour quelques voyages. Et puis je suis également intéressée par la question de la colonisation. Donc c'était l'occasion d'approfondir ce thème, hein, cette partie de notre histoire.
Très bien. Alors pour nos auditeurs, expliquez-nous, on est à quelle époque ? Et ensuite, quand vous dites second de Brasa, expliquez-nous ce que ça signifie.
Alors on est donc pendant la deuxième moitié du 19e siècle, puisque Noël Ballet est né en 1847, et puis donc le tout début du 20e siècle, puisqu'il est décédé en 1902. Donc deuxième moitié du 19e siècle principalement, et le second de Pierre Savorian de Brasa, ça veut dire que Brasa cherchait quelqu'un, un médecin, pour l'accompagner lors de sa première expédition au Gabon, direction le Congo en principe, hein. Et donc tous les deux se sont rencontrés à Paris dans un petit restaurant du quartier latin qui s'appelait La Petite Vache, et Ballet s'est présenté pour faire partie de l'expédition de Brasa, et Brasa a écrit dans un article de presse de l'époque, qu'il a tout de suite senti le feu sacré en Noël Ballet. Donc ça a fonctionné et ils sont partis presque ensemble à quelques jours d'intervalle pour cette première expédition.
Très bien. Alors, Également, un petit éclairage est nécessaire car la plupart des gens connaissent Brazza, connaissent la ville de Brazza.
Oui.
Alors, vous pouvez nous expliciter un peu ce lien qu'il y a entre cette ville de Brazza et ce personnage que vous nommez dans votre sous-titre, Brazza.
Oui, oui. Alors, Brazza et Balai, très vite, on en vient à les appeler comme ça dans le livre, comme ça se faisait d'ailleurs, bien sûr, à l'époque. Donc, Brazza, c'est le fondateur de Brazzaville. Et effectivement, quand les gens, par exemple, en salon du livre, voient la première de couverture de ma biographie de Noël Balai, on voit bien à leur façon de faire, de dire qu'ils ne connaissent pas Noël Balai, à part les Chartreins, et encore. Or, ils connaissent effectivement la rue dont vous parliez, la rue du centre-ville de Chartres. Quelques-uns connaissent le monument Balai un petit peu plus loin, mais ça s'arrête là. J'ai même quelqu'un l'autre jour qui était sûr du fait suivant. Il me dit Noël Balai, ah oui, c'était un poète. Donc, et il avait dans l'idée que sur la plaque de la rue dont on parlait à l'instant, c'était marqué Noël Balai, poète. Alors je lui dis peut-être que vous confondez avec du Bellay, mais je lui dis j'ai passé beaucoup de temps dans les vieux papiers concernant Noël Balai et je n'ai trouvé aucune trace d'un quelconque poème signé de sa main. Il y a un sonnet signé de Chavannes qui est consacré à Balai, de même qu'il y en a un consacré à Brazza, mais c'est Chavannes de Chavannes l'auteur. Et ça n'est pas Balai. Mais bon, cela dit, peut-être qu'il a écrit quelques poèmes, je ne sais pas, au fond des territoires africains, qui sait, mais il n'était pas poète, il était d'abord médecin.
Voilà. Alors donc, vous conduisez votre lecteur à suivre l'itinéraire de ce personnage haut et en couleur, à l'itinéraire rocambolesque. Mm-hmm. Est-ce que, sans déflorer ce qu'il y a dans votre livre, bien sûr, est-ce que vous pouvez comme ça nous dire deux, trois mots sur cette vie qui est vraiment une vie aventureuse ?
Ah oui, oui, moi j'ai été vraiment époustouflée en recréant, en retrouvant le parcours de Balai et de Brazza, puisque les deux ont été vraiment liés, du moins pendant un temps, époustouflée par l'audace de leur tentative. Effectivement, au départ, Brazza avait une certaine connaissance du cours du fleuve Ogoué au Gabon qu'ils ont donc remonté jusqu'à sa source dans l'espoir d'atteindre le Congo. Mais il connaissait une partie du cours du fleuve, mais après, dès la première expédition, il s'est vite rendu compte que c'était quelque chose de très très difficile. Il fallait parlementer, palabrer avec les indigènes, trouver des porteurs, des pagayeurs. Et puis ce qui m'a époustouflé plus encore, c'est pendant la deuxième expédition, quand Balai doit transporter les pièces détachées de deux canots à vapeur qu'on espère un jour faire naviguer sur le Congo, et que là vraiment ça tourne au film d'aventure, on peut dire. Et Balai qui tombe à l'eau, son canot qui est renversé par un hippopotame, enfin on est vraiment comme dans un film d'aventure. Et on se dit que ces gens-là, comme d'autres bien sûr, ont fait des choses vraiment extraordinaires.
Alors, c'est ce qu'il y a de passionnant dans votre ouvrage, c'est que vous nous conduisez sur le continent africain, vous nous menez à penser donc cet itinéraire aventureux de Noël Balai. Et comme tout à l'heure vous le disiez, vous êtes également très soucieuse des questions liées à la colonisation. Alors, quand vous avez écrit cet ouvrage, quelle était cette tension entre, d'un côté, un personnage qui est, comme tout à l'heure on le disait, haut et en couleur, et de l'autre côté, une réalité qui est celle du colonialisme. Qu'est-ce qui vous a... Enfin, comment vous avez construit votre équilibre dans votre travail d'auteur ?
Disons que j'ai d'abord suivi Balai et Brazza dans leurs explorations, et j'ai essayer d'expliquer au mieux comment ils étaient passés, finalement, de l'exploration à la colonisation. Et ça se fait après donc des années d'avancées périlleuses, de recul, etc. On dévie d'un côté à l'autre des fleuves et puis on y arrive finalement. On parvient jusqu'au fleuve Congo. Il y a la rencontre entre Brazza et le Makoko, c'est-à-dire le souverain d'une partie de la rive des rives du Congo. Et puis donc là, on arrive dans la colonisation, puisqu'un traité de paix, un traité plutôt, est signé entre le Makoko et Brazza. Ce traité, Brazza le ramène en France, il est validé par le gouvernement, le Parlement français, et puis ensuite on s'en retourne pour prendre possession des lieux sur la rive droite du Congo et fonder Kuna, qui prendra ensuite le nom de Brazzaville. Donc on voit bien qu'on est dans une démarche d'approche du chef indigène, de séduction, je dirais, hein, et puis petit à petit, donc on s'installe. Entre-temps, avant cela, Brazza avait fondé déjà d'autres postes, hein, pour le compte de la France. Donc on avance et la colonisation est enclenchée. Entre-temps, Balay a rencontré également le Makoko et il a continué à entretenir des liens d'amitié avec lui pendant que Brazza était rentré en France. Donc Balay avait une bonne connaissance des lieux, il avait lui-même exploré, j'ai eu entre les mains son cahier d'exploration, et donc il était à même par la suite d'assister en tant que délégué technique de la France à la conférence de Berlin, hein, pour le partage des territoires, et ensuite sur le terrain, la délimitation des frontières. Donc c'est un long cheminement, avec en arrière-plan bien sûr l'accord, hein, du principal personnage, à savoir Jules Ferry, hein, qui a verbalisé, théorisé ce principe de la colonisation, en disant qu'il fallait que la France, après la défaite de 70, qu'elle reprenne de l'importance, et qu'il fallait faire finalement la même chose que d'autres pays européens. Il ne fallait pas rester en arrière.
Tout à fait passionnant. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu entre les mains donc les carnets de Noël Balay. Donc c'est tout à fait incroyable. Vous avez donc eu accès aux archives familiales ?
Alors là, les carnets, non. Je les ai consultés à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'Outre-mer. Hein. C'est là que se trouve ce carnet d'observation. Et c'est effectivement très émouvant, puisque on a donc les dates des observations. Il s'agit d'observations météorologiques, astronomiques, tout ce qu'il peut remarquer, donc ici et là. Il le note avec des mesures notamment très, très précises. Hein. J'ai même, aux Archives d'Outre-mer, trouvé le détail des instruments qu'il avait emportés avec lui, qui ne lui appartenaient pas, on les lui avait prêtés. Et au retour, il y a un document qui montre qu'il devait les rendre de manière à ce qu'ils servent à Pavie, qui s'en allait, lui, en expédition en Asie. Hein, donc des instruments qu'on se transmet de l'un à l'autre. Et donc on voit bien que là, l'explorateur de l'époque, le médecin Balay, qui est devenu explorateur, il est en même temps astronome, il est capable de faire toutes sortes de mesures et de les recopier sur un carnet. Hein. Donc tout ça, c'est aux Archives d'Outre-mer, où j'ai eu accès à plein d'autres documents, plein d'autres papiers, et notamment son dossier personnel est à Aix-en-Provence. Mais il s'y est ajouté effectivement à Fontenay-sur-Eure, dans la maison familiale, la ferme natale de Noël Balay, toutes sortes d'archives et beaucoup de lettres en particulier.
Alors, Noël Balay, c'est un humaniste, c'est un médecin, est-il humaniste ou est-ce, comme on peut imaginer, un colonial
Alors, pour moi, c'est un humaniste, c'est d'abord un médecin, je le redis encore une fois, parce que justement, dans les dernières années de sa vie, il pensait prendre sa retraite, il est rentré en France, et puis quand l'épidémie de fièvre jaune s'est déclarée au Sénégal, il est retourné au Sénégal. Et d'ailleurs, il y est décédé à Saint-Louis du Sénégal, non pas de la fièvre jaune. J'ai rencontré, depuis que j'ai écrit cette biographie, une spécialiste du diabète. Et donc, je lui ai envoyé des documents là, familiaux, notamment une ordonnance, enfin une facture provenant de la pharmacie de Saint-Louis du Sénégal. Et donc, cette spécialiste du diabète, d'après les recommandations sur cette facture, ce qui a été noté, elle a pu déterminer, prouver qu'effectivement, effectivement, c'est bien du diabète qu'il est décédé, et non pas de la fièvre jaune, comme on le voit dans certains documents. Donc, un humaniste, je disais, d'abord un docteur. Et je tiens à cette idée-là de Noël Balay, que je n'ai pas inventée, que j'ai forgée petit à petit, hein, au fil de mes recherches et de mes découvertes, parce que voilà quelques semaines seulement, c'était lors d'un salon du livre, je participe à pas mal de salons, Et donc, quelqu'un, un auteur d'ailleurs, hein, du coin, est passé devant ma table, devant mes livres. Il a vu la couverture de Noël Ballet l'Africain et il me dit comme ça, de but en blanc, sans aucun détour, « Je n'aime pas les colonialistes ». Voilà. Donc, je lui ai dit, mais il ne s'agit pas, quand on fait une biographie de Noël Ballet, dans ce cas précis, d'aimer ou de ne pas aimer. Il s'agit de mener une enquête, hein, et de raisonner à partir des documents, des données qu'on a trouvées. Je ne dis pas que... Au fur et à mesure, on a tout de même... On s'attache au personnage. Il y a un peu d'affectif qui peut surgir. Mais mon idée n'est pas de défendre un colonialiste. Hein. Et donc, je le dis et répète encore, hein, Noël Ballet n'était pas un affreux colonialiste. Braza non plus, d'ailleurs. Hein. Braza a libéré pas mal d'esclaves au cours de son parcours. Hein. Ensuite, ils se sont séparés, mais pas pour cette question-là, pour des questions de gestion de la colonie nouvellement fondée. Hein. Donc voilà. Alors, on se forge une idée petit à petit, mais on n'a pas d'a priori. Hein. Je vous disais, la colonisation m'intéressait et j'ai vérifié, enfin, j'ai autant que possible été, je crois, honnête et par rapport aux documents que j'ai trouvés. Hein, je les ai exploités au mieux, enfin, du moins.
Je confirme, la lecture est tout à fait passionnante. Ça se lit comme une enquête policière. On passe d'une archive à l'autre. Vous nous amenez à réfléchir aussi, chemin faisant, à la vie qu'il a pu avoir ici en France et puis en Afrique. Et effectivement, le lecteur se fait son opinion, mais vous ne prenez pas parti pour ou contre le colonialisme. Vous faites un travail d'historienne sur un personnage qui nous importe, puisque c'est un personnage aurélien, et a fortiori, quand on est chartrain, avoir connaissance des personnages dont les rues portent le nom, c'est éminemment important. Nous allons faire une première pause musicale avant de continuer avec vous, Lydie Delanou. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lerest pour l'émission Un livre, un auteur, qui reçoit aujourd'hui Lydie Delanou pour la parution de son livre Noël Ballet l'Africain, avec et sans Braza, chez l'éditeur parisien L'Harmattan. Alors, ce qui m'a tout à fait intrigué à la lecture de votre livre, en premier lieu, c'est le fait que cet homme, Noël Ballet, Aurélien, a bénéficié de funérailles nationales. Donc évidemment, pour bénéficier de funérailles nationales, il faut être un personnage important. Et donc, pouvez-vous situer l'importance de Noël Ballet dans la France de l'époque ?
Je disais précédemment que Noël Ballet avait une très bonne connaissance du terrain, des rives du Congo notamment, de tout le parcours de l'Ogoué, ce fleuve gabonais, et c'est pourquoi il a été choisi pour être délégué technique à la conférence de Berlin. Donc il y a d'abord cette connaissance du terrain. On lui a fait confiance, du point de vue dans le gouvernement français, assez confiance pour l'envoyer donc participer à cette conférence. Ensuite, sur le terrain, on fait encore appel à lui dans l'équipe qui est chargée d'appliquer les décisions de la conférence de Berlin, donc de tracer finalement les frontières des différentes colonies, des territoires occupés par les Européens. Donc il y a cette confiance. Il y a aussi le fait que Noël Ballet paraît comme quelqu'un d'honnête, et ça revient constamment. Ça n'est pas quelqu'un qui dilapide l'argent qui a été consenti. Il fait quelquefois même appel à ses propres deniers. Et il est un gestionnaire très méticuleux, contrairement à Braza, qui était plus « dépensier », entre guillemets, peut-être parce qu'il était né dans une famille aristocratique où on était peut-être plus fortuné, et on dépensait plus facilement. Donc Braza a ce côté comme ça un petit peu, un peu inconséquent. C'est tout le contraire de Ballet. Est-ce que c'est lié au fait qu'il soit d'origine paysanne, beauceronne peut-être, ou c'est son caractère tout simplement. Donc il y a une grande confiance, et même j'ai vu des lettres dans lesquelles il est dit que quand il va revenir à Paris, il devra s'associer à un petit groupe de réflexion concernant l'organisation des colonies, de la colonie du Congo français en particulier. Donc on voit bien qu'il y a cette confiance par rapport à Ballet, qui va rester jusqu'à la fin, d'où ses funérailles nationales, effectivement. Et j'ai voulu commencer ma biographie de Noël Ballet par le récit détaillé de ses funérailles nationales, pour montrer d'emblée au lecteur que nous avons là affaire à un personnage important.
Y a-t-il eu d'autres chartrains qui ont bénéficié de funérailles nationales ?
Je ne pense pas. Alors, funérailles nationales qui ont eu lieu à la cathédrale de Chartres et non pas à Paris, avec quelques regrets, par exemple, dans une lettre de l'officier d'ordonnance de Noël Ballet, mais parce qu'il écrit dans une lettre qu'il y aurait eu sans doute plus de monde avec des funérailles nationales organisées à Paris. Mais le désir de la famille Ballet, c'était que ces funérailles aient lieu à Chartres. Mmh. Et puisque Noël Ballet, ensuite, son corps a été rapatrié jusqu'à Fontenay-sur-Eure, où il a pris place dans la sépulture familiale, au cimetière de Fontenay-sur-Eure.
Alors, à l'origine de ce parcours tout à fait singulier, il y a quand même une question, c'est l'expatriation. Pourquoi s'expatrier quand on est médecin et que finalement la gloire s'ouvre déjà moins de façon locale ? Pourquoi s'expatrier au bout du monde ?
Alors, devenir médecin, ça effectivement, on le conçoit sans problème, d'autant que Noël Ballet est né donc dans une famille d'agriculteurs aisés, et il a un frère aîné. Donc la ferme, très logiquement, elle est revenue à son frère aîné. Donc étant le second de la famille, puisqu'il n'y avait que deux garçons, Noël Ballet devait trouver une autre voie. Donc, il a essayé, en fait, il n'a pas fait la faculté de médecine de Paris directement. Il a essayé Polytechnique, donc d'autres tentatives ont été faites. Et puis finalement, donc, il s'inscrit à la faculté de médecine de Paris. Donc, évidemment, par goût. Alors, pourquoi est-ce qu'après, il s'expatrie ? C'est la rencontre avec Braza qui détermine cela. Mais il y avait sans doute chez lui, bien sûr, un goût de l'aventure et de l'ailleurs, on pourrait dire. Alors, comment le justifier ? Ça, j'avoue que je ne le sais pas trop. Le seul... Et élément que j'ai trouvé, c'est son, dans un petit récit d'un ancien maître où il est dit qu'il aimait particulièrement la géographie depuis tout petit. Hein, à l'école primaire déjà, il avait ce goût pour la géographie. Alors, est-ce que ça suffit à expliquer ? Après, il y a les circonstances de l'époque et puis cette envie de découvrir qu'on avait à cette époque-là. Donc, c'est tout ça, je pense, à participer. Hein. Et puis, lui-même a participé à la guerre de 70, donc la défaite. Et puis, entre gauche et droite, les idées qui s'opposent. Hein. À droite, on voudrait récupérer l'Alsace et la Lorraine, les territoires perdus. Et puis, autour de Jules Ferry, donc à gauche, au contraire, on pense, comme je le disais un peu tout à l'heure, qu'il vaut mieux se tourner vers des territoires plus lointains, de manière à redorer le blason français. Donc, Noël Ballay est pris dans cette ambiance-là, mais bon, il est évident qu'il avait ce goût, puisqu'il a passé la moitié de sa vie sur le continent africain, et il y est retourné quelquefois, vraiment comme si ce continent l'appelait, en quelque sorte, hein, pour des raisons diverses, mais il y a ce goût pour l'Afrique, et pour les Africains, pour les indigènes. Il était apparemment aimé, hein, j'ai vu plusieurs documents où on dit qu'il parlait avec tout le monde, hein, donc il était attaché à cette population qu'il rencontrait.
Alors peut-on dire qu'il a été un administrateur colonial exemplaire ?
Des documents le disent, des journaux de l'époque l'affirment. Moi, j'ai repris donc ce qui était dit. Exemplaire sur le plan financier, le plan de la gestion, on le disait déjà tout à l'heure, dans ses rapports avec la population, je le disais à l'instant. Après, exemplaire, au-delà, sans doute pas, c'était un homme, ça n'était pas un saint. Mais bon, il a fait beaucoup à la fois pour l'instruction, créer des écoles, pour la santé, créer des hôpitaux. Donc un hôpital, par exemple, à Conakry, hein, puisqu'il a été gouverneur de la Guinée française, et à Conakry, donc un hôpital portait son nom. Donc il y a ce souci, évidemment, de la santé des gens, en plus de l'instruction, hein, de la population. Une école de garçons, une école de filles. Il s'intéressait aussi à la botanique, d'où la création de jardins d'essai, d'où des relations aussi avec Maxime Cornu, qui était à la chaire du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et dans les archives de la famille, il y a beaucoup de lettres de Maxime Cornu qui intéresseraient sans doute le Muséum d'histoire naturelle, parce qu'il y en a plus d'une vingtaine. D'accord. Et donc là, il y a encore des choses à exploiter, je dirais.
Hein. D'accord, tout à fait intéressant. Oui. Alors bon, comme je suis ethnologue, évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser la question concernant Noël Ballay et son itinéraire donc d'administrateur colonial, pour savoir si on peut pas quand même trouver une tache à ce portrait flatteur que vous nous dessinez.
Brazza disait de lui que on sait qu'il était timide. Le secrétaire Charles de Chavannes, secrétaire particulier de Brazza, l'écrit et le répète. Et Brazza disait qu'il était comme un mouton, mais qui pouvait très bien quelqu'un de discret, mais qui savait aussi se montrer. Et qui pouvait être colérique, on dira peut-être coléreux, peut-être pas jusque-là, mais il avait du caractère. Et j'ai vu à plusieurs reprises que quand il n'était pas d'accord avec quelque chose, il claquait la porte, il demandait à rentrer en France. Hein. C'est arrivé au moins deux fois. Hein. Et donc avec Brazza, quand il a été lieutenant-gouverneur du Gabon sous l'autorité de Brazza, qui était commissaire du gouvernement français pour le Congo français, Ballay a demandé dans X télégrammes et lettres à rentrer en France. Hein. Donc c'est quelqu'un de coriace quand même, hein. C'est quelqu'un qui a du caractère, mais bon, est-ce que c'est... Hein. Voilà. Après, avec Brazza, on a bien vu, hein, dans son dossier, d'ailleurs son dossier personnel, c'est marqué sous cette forme-là, à savoir qu'il n'y a qu'une chose vraiment bien sentie dans son dossier, c'est cette opposition avec Brazza qui a fait que Ballay a préféré couper les ponts avec lui et rentrer en France pour ne pas, dit-on dans le dossier, écrit-on, pour ne pas le gêner dans sa progression, dans son avancée. Il a voulu être loyal plutôt que de le contrecarrer. Hein. Donc ce serait peut-être son obstination, son... Et d'ailleurs, Charles de Chavannes a un rôle à plusieurs reprises d'intermédiaire entre les deux hommes. Il essaie de les remettre en relation.
Hein. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une tâche au portrait flatteur que vous avez dessiné.
J'ai du mal à trouver quelque chose.
On pourrait dire un mouton hybride avec des dents qui savent également
mordre.
Donc, mordre, voilà.
ou impressionné en tout cas, impressionné. Ouais. Oui, oui.
Très bien. Alors bon, vous parlez aussi beaucoup dans votre livre des problèmes de santé de Noël Ballet qui sont récurrents et en fait, évidemment, son dernier voyage en Afrique, à la lecture de votre livre, on sent bien que c'est le voyage de trop.
Oui.
C'est le voyage de trop et lui-même le semble pressentir également.
Oui, oui, absolument. Hein. Il était très fatigué à cause de ses problèmes de santé, vous le disiez. Et puis donc, ouais, voilà, il n'y avait plus qu'une chose c'était la retraite. Hein. Il voulait prendre la retraite. Mmh. Alors, problème de santé personnel, mais encore amplifié par les fièvres qu'il a subies depuis le départ en 1875, hein, donc jusqu'à sa mort en 1902. Ouais. Donc, le diabète, ensuite une chute dans un escalier à Paris. Donc, bon, tout ça, ça c'est moins grave, mais ça le handicap tout de même. Et donc, tout ça s'ajoute et on voit effectivement un personnage, on voit son physique, à quel point il a rapidement décliné. Et, il meurt jeune, hein, à 54 ans et demi, mais il en paraît 20, il paraît facilement 20 ans de plus. Hein. Mmh. Mais bon, c'est l'époque aussi qui veut ça et les conditions Brazza étaient pareilles. Hein. Mmh. De toute façon, la santé vraiment très, très, très atteinte. Hein.
Mmh. Oui, alors une retraite, aujourd'hui, ça nous paraîtrait complètement scandaleux de prendre sa retraite à 50 et quelques années.
Oui, absolument, oui, oui.
Mais bon, effectivement, au regard de cette vie aventureuse, les années comptaient triple.
Hein. Oui, et je dois ajouter aussi que autant il a aimé être gouverneur de la Guinée française et donc habiter Conakry, qu'il a contribué à développer beaucoup, autant il est à la fin devenu gouverneur de l'Afrique occidentale française, mais cette partie-là de l'Afrique, enfin cette partie-là même de sa vie de gouverneur, lui a déplu. Parce que à Conakry, c'était une ambiance familière et Ballet était quelqu'un de relativement simple. Alors qu'en étant gouverneur de l'AOF, il y avait tout un cérémonial, et ça, visiblement, il l'écrit à ses parents. Hein, j'ai vu les lettres à sa mère. Et donc, on voit que vraiment, il détestait ça. Mmh. Et tous ses serviteurs autour de lui, ses honneurs qu'on lui rendait, il dit, je vais devoir organiser une soirée, un bal, etc. Et être bien, faire semblant que tout va bien avec des gens que je connais à peine, voire que je ne connais pas du tout. Et ce côté-là de représentation, c'est quelque chose qui lui déplaît.
Alors, ça me permet d'en venir aussi à une partie de sa vie que vous n'évoquez pas trop. C'est le rapport à sa femme et à ses enfants. Sa femme et ses enfants restent en France, ils sont en Eure-et-Loire ou bien l'accompagnent ?
Non, il n'a pas de femme. Hein. Noël Ballet ne s'est pas marié. Non, on ne lui connaît pas de femme.
D'accord.
La seule femme dont il parle à ses côtés, c'est sa gouvernante.
D'accord.
Une gouvernante qu'il avait déjà dans son appartement parisien et qu'il a vu un beau jour arriver là-bas au Gabon, mais à Libreville donc. Hein. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé aussi une sorte de brouillon de lettres qui s'adresse à une demoiselle, mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher un peu s'il avait des relations féminines plus précises, plus importantes, et je n'en ai pas trouvé. Cette recherche est venue à la suite d'un article de la presse de l'époque dans lequel on disait que Noël Ballet était arrivé à Bordeaux, où elle avait débarqué du bateau avec femme et enfant. Oh, je me dis, ça y est, je lui trouve une femme et des enfants, et non. J'ai cherché dans d'autres journaux et je n'en ai pas trouvé. Alors, quelqu'un, après la parution du livre, un monsieur qui habite en région parisienne, m'a téléphoné un jour en disant qu'il était tombé sur cette biographie de Noël Ballet et il se prétendait être un descendant de Noël Ballet. Et puis donc, avec un ami généalogiste, on a cherché dans l'état civil et en fait, non, ça, on n'a pas trouvé le nom de ce monsieur qui m'avait téléphoné. Et alors, je lui ai envoyé les photocopies des documents et autres. Et nos échanges se sont arrêtés là. Il était très âgé, je me suis dit, pourvu que je n'ai pas contribué à le rendre malade. Mais oui, voilà, il s'est inventé, semble-t-il, une descendance qui n'était pas vraie. Donc, pas de femme et pas d'enfant légitime, du moins.
D'accord.
Je ne dis pas qu'il n'ait pas eu d'enfant, ça, je ne sais pas. D'enfant légitime.
Très bien. Alors, les personnalités qu'il fréquente, elles sont nombreuses. Il est visiblement connu et apprécié.
Oui, Absolument, oui, oui.
Alors, les personnages, par exemple, de cette époque, les personnages les plus connus, est-ce que vous pouvez nous dire quelques personnages comme ça?
Oui, le ministre de Cré, par exemple, qui est là, dans les parages. J'ai eu entre les mains des lettres de Jules Ferry, adressées à Noël Ballet lui-même. Donc, on voit bien c'est quelqu'un tout de même de proche, hein, de ministres, de gens importants du gouvernement. Hein. Et donc, il a ses entrées chez ces gens-là. Il est donc très proche également du frère de Brazza, Pierre de Brazza, Jacques de Brazza, pardon. Et puis, oui, d'autres encore, donc dans le domaine de la colonisation, mais aussi dans le domaine politique. Hein. C'est quelqu'un de la gauche modérée, hein, semble-t-il. Hein. J'ai trouvé différentes preuves de cela. Donc, il a des amitiés également dans le domaine de la médecine, évidemment. J'ai trouvé d'autres, notamment des cartes de visite de docteurs, de différents docteurs avec lesquels il est en relation. Dans la famille, il y a une boîte en bois de grande dimension dans laquelle pleine absolument de cartes de visite. Donc, Noël Ballet avait gardé tout cela. Hein. Et donc, il y a beaucoup de cartes de docteurs et beaucoup de personnages qui défilent sur ces cartes. Et il y a un docteur même qui le salue quand il est nommé gouverneur de la OEF en disant que c'est assez rare, que, à l'époque par rapport à maintenant, que l'on nomme à des postes d'importance quelqu'un qui est monté en grade de façon honnête. Et oui, alors donc, ouais. Hein, c'est, les temps ne changent pas finalement.
Et sur ce trait humoristique, nous allons faire une nouvelle pause musicale. À tout de suite. Sunny. Yesterday, my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true, yes, I love you. Sunny, yesterday, oh, my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur avec Pascal Lerest et nous en venons maintenant à notre rubrique Les livres du mois. Alors ce mois-ci, un très beau livre sous la direction de Bernard Jacquet et Daniel Véron-Denise, Architecture et textile, aménager l'espace. Rôle et symbolique des textiles dans les cultures nomades et sédentaires, aux éditions Sepia. C'est un livre extrêmement bien documenté, qui est tout à fait passionnant, avec de très belles photographies. Et puis on se balade tout autour de la planète dans les mondes nomades, aussi bien en Chine qu'en Afrique, en Amérique latine. Et on voit en fait quelles sont les techniques et les symboliques à la fois des textiles, des techniques qui permettent donc de réaliser des parures, des devantures, etc. Et en même temps, donc, le rapport à l'architecture. Donc, je rappelle donc le titre de l'ouvrage aux éditions Sepia, « Architecture et textile, aménager l'espace, rôle et symbolique des textiles dans les cultures nomades et sédentaires », sous la direction de Bernard Jacquet et Daniel Véron-Denise. Un deuxième livre qui parlera donc à notre invité de ce mois, donc Lydie Delanoux, c'est d'Éric Froment, Jules Ferry, cet inconnu, aux éditions L'Harmattan. Un livre très bien documenté également, et un livre qui permet de se faire une image assez complète de qui était Jules Ferry, donc dans ses aspects les plus divers, et ça permet également de retracer le parcours d'un homme qui a été quand même très important au XIXe siècle et qui a un effet encore aujourd'hui éminemment important concernant l'éducation nationale, par exemple. Donc je redis ce titre d'ouvrage, Jules Ferry, cet inconnu, par Éric Froment, qui est un économiste, et qui publie donc aux éditions L'Harmattan, un livre de 2018. Et puis les trois autres ouvrages d'un auteur, Gérard Vidal, qui publie chez Les Impliqués Éditeurs, qui publie en fait trois livres sur le cheval, le monde du cheval. Donc le titre des ouvrages, Cheval de vie, avec pour tome 1, Mise en selle, tome 2, L'éducation du cavalier, tome 3, Horse Jacking. Donc ce sont des romans donc, qui font pénétrer donc, le lecteur dans le monde équestre et on suit pas à pas, si j'ose dire, donc les réalités donc de cet univers équestre, avec des personnages qui tour à tour nous font voir les aspects lumineux ou plus sombres de cet univers. Donc je rappelle donc chez cet éditeur les impliqués éditeurs, Cheval de vie de Gérard Vidal, trois tomes, des romans donc tout à fait passionnants. Une courte pause et nous reprenons avec Lydie Delanoux pour son ouvrage sur Noël Ballet. Five months, two weeks, two days, my loving baby's been gone. Five months, two weeks, two days, my loving baby's been gone. If you see my baby, please send her home to me. Hurry, go home, baby. Hurry, oh, oh, 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 baby. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur avec Pascal Lereste qui reçoit aujourd'hui Lydie Delanoux pour son ouvrage Noël Ballet l'Africain, publié chez L'Harmattan, donc dans la collection Biographie, série 19e siècle. Alors, vous vous êtes intéressée à Noël Ballet, Lydie, mais vous avez également publié un autre ouvrage que je cite à l'antenne, si vous me permettez, qui s'intitule « La grande guerre du lieutenant Ballet, selon sa correspondance ». Et donc, toujours chez L'Harmattan, cette fois dans « Mémoire du XXe siècle ». Alors, le lieutenant Ballet, qui était-il par rapport à Noël Ballet ?
Alors, c'est donc André Ballet, le neveu de Noël Ballet. Puisque Noël Ballet avait un frère aîné, Léon, et Léon a eu deux enfants, d'abord André, et puis ensuite une fille prénommée Cécile. Donc il s'agit en fait de la grande guerre d'André Ballet, neveu de Noël, qui est parti à la guerre à 40 ans. Lui était déjà marié quand il est parti à la guerre.
Et alors pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a intéressé cette fois dans cet itinéraire d'un autre ballet ?
Alors au départ, ça m'est tombé dessus, on pourrait dire, hein, par chance, parce que quand le livre, la biographie de Noël Ballet est sorti, dans la ferme natale de Noël Ballet, chez sa descendante, hein, son arrière-arrière-petite-nièce, nous avons organisé une exposition pour présenter la biographie de Noël Ballet et en même temps profiter pour montrer au public des objets qui ont été gardés par la famille, hein, des objets ayant trait à Noël Ballet. Et puis nous avions terminé de préparer cette exposition et la descendante de Noël est arrivée un beau jour avec une boîte à pantoufles, je le dis à pantoufles parce qu'il y a l'étiquette qui est dessus, et sur le côté de cette boîte à pantoufles, une petite étiquette, plus petite encore, sur laquelle il était écrit « Lettre d'André 1914-1918 ». Elle m'avait déjà montré cette boîte une première fois. J'avais soulevé le couvercle, vu que c'était des lettres attachées par petits paquets avec des liens de fortune, mais je pensais que c'était des lettres personnelles. Et quand j'ai vu la petite étiquette 1914-1918, quand elle est revenue à la charge une deuxième fois, je lui ai dit « Ah mais là, Céline, ça change tout, hein. Des lettres de guerre, de la Première Guerre mondiale, ça peut être intéressant. » Et donc elle m'a confié cette boîte, j'ai détaché les liens, j'ai classé les lettres parce qu'elles étaient mélangées, et j'ai commencé à les lire, et plus je les lisais, plus ça me paraissait impératif, je dirais, de faire partager le contenu de ces lettres. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne l'ai pas regretté.
Et donc, vous avez publié ce livre avant, celui de Noël Ballet,
non,
ou après ?
Non, il vient de... Enfin, il est sorti il y a peu de temps, le 30 mai 2018, donc c'est quelque chose d'assez récent. Hein. Et je l'ai organisé en chapitres, en prenant pour titre de chapitre des extraits importants des lettres d'André Ballet. Si bien que quand on met bout à bout ces titres, on a le parcours complet de ce lieutenant de territorial, hein, qui est parti à la guerre, donc je disais à 40 ans, parce qu'on avait besoin, vu les pertes des premières semaines, on avait besoin de faire appel à d'autres hommes et voir des hommes âgés ou très âgés. Hein. Et donc, il quitte la ferme natale, là aussi, de Fontenay-sur-Eure, en laissant à la tête de la ferme sa femme. Ils ont déjà trois petites filles. Et donc, l'intérêt aussi, c'est que dans les lettres de la boîte à pantoufles, 219 lettres, il y a aussi des lettres d'enfants. Donc des lettres des deux aînés des trois filles, et puis des lettres aussi d'un enfant de Cécile, hein, la sœur d'André, qui lui habitait à Chartres. Et donc tout cela fait que c'est un ensemble, une correspondance tout de même variée. Hein. On a aussi des lettres de la belle famille d'André, des lettres de compagnons d'armes, donc un ensemble intéressant, riche, je dirais. Hein.
Alors, combien de temps de travail pour cet ouvrage ?
Alors, pour cet ouvrage, 1 an et demi de travail, contre 3 ans pour Noël Ballet, du simple au double. J'ai passé beaucoup de temps dans le deuxième cas, parce que le problème, c'est que dans la famille, on a énormément d'archives. Ça, c'est vraiment une chance. Et une chance aussi, bien sûr, qu'on me les ait confiées ou montrées. Il n'y avait pas de photos d'André Ballet pendant la guerre. Et je me disais, si je n'ai pas de photo de lui en tant que militaire, je ne pourrai pas publier le livre. Donc j'ai passé à peu près 3 mois pour trouver une photo d'André Ballet. Alors j'ai sonné aux portes des différents membres de la famille que je connaissais, notamment un cousin qui avait apporté une malle pleine de documents sur Noël Ballet. Il m'a envoyé, par l'intermédiaire de Céline de Fontenay, des photos de militaires, mais ça ne correspondait pas, il n'y avait pas de nom.
Parce qu'André Ballet n'avait pas de compte Facebook.
Il avait, le comble, c'est qu'il avait avec lui un appareil photo. Il a demandé à son épouse de lui envoyer son Kodak et il explique dans les lettres qu'il a pris des photos et toutes les photos ont disparu, donc pas de chance. Ouais. Et j'ai trouvé 2 photos, figurez-vous, sur un forum sur Internet.
Alors,
il y avait un album photo à vendre.
D'accord.
Il y avait plusieurs pages qui étaient montrées pour appâter le chaland, avec dessus à chaque fois 4 photos de collées sur un fond bleu-gris. Et sous certaines photos, des photos de groupe, il y avait des noms de marqués.
Wow.
Et des noms que j'avais vus dans les lettres d'André Ballet. Ballet n'était pas marqué, il ne faut pas quand même rêver. Hein.
Ouais.
Mais des noms que je connaissais d'après la correspondance.
D'accord.
Je me suis dit, peut-être qu'il est quelque part dans ces groupes. J'en avais 2.
Okay.
J'ai fait des copier-coller, tout le monde le saura désormais. Et j'ai mis ça de côté en attendant des jours meilleurs.
Mmh.
Et comme dans la famille, je n'ai pas trouvé de photos, eh ben, j'avais aussi des photos d'André Ballet enfant, notamment en communiant.
Ouais.
Je suis allée tout simplement voir le photographe de ma commune, de Voves. J'ai montré au photographe la photo d'André Ballet à 12 ans
mmh.
et les 2 photos de groupe que j'avais copier-coller. Je lui ai dit, est-ce que quelque part dans ce groupe, vous pouvez reconnaître André Ballet adulte par rapport à André Ballet communiant. Et il a fait un montage, hein, donc il a superposé le communiant sur celui qui paraissait correspondre, hein, forme de visage, et surtout il m'a dit, le photographe, avez-vous vu qu'il a les oreilles pointues ? Et donc, non, j'avais pas vu. Hein. Et grâce à ce détail, bah, il a pu faire comme ça en 4 étapes un montage. Et on passe comme ça avec ce montage d'André Ballet, 12 ans, à André Ballet, 41 ans.
D'accord.
Hein. Et ça colle. Hein.
Okay.
Je pense que le photographe était vraiment sûr de lui.
Ouais.
Et j'ai montré après à différentes personnes, et notamment dans la famille, hein, parce que ses descendants ne l'ont pas connu adulte, sauf son petit-fils, qui avait 10 ans quand son grand-père est mort, hein. Mais bon, il se souvient de lui, il se souvient qu'il était resté un peu gêné dans sa démarche, etc., de blessures, hein. Mais il ne le connaissait pas tel qu'il était à cet âge-là. Donc c'était une enquête de plus finalement, mais bon, c'est toujours intéressant parce que quand on cherche des photos, on va aussi à Vincennes, puisqu'il est officier, et donc voilà, j'ai eu accès finalement, heureusement que je n'avais pas de photos de lui, peut-être que je ne serais pas allée à Vincennes.
En tout cas, chers auditeurs, vous avez là un fait exemplaire de la méthode donc initiée par Lydie Delanoux et qui est assez révélatrice de comment se construisent ces ouvrages. Donc, je vous engage vraiment à les lire, à vous procurer ces livres, car on y entre comme dans une enquête policière et on voit bien comment Lydie Delanoux nous conduit à pénétrer dans l'univers vécu des personnages. On rentre dans une époque, on est pris par la manière qu'elle a de rédiger et de mettre en perspective donc toutes les archives, qu'elles soient photographiques ou d'autres natures. Et c'est tout à fait passionnant. Alors, dire quand même aux auditeurs également que le livre sur Noël Ballet, donc Noël Ballet l'Africain avec et sans Brazza, fait 450 pages avec des crédits photographiques tout à fait passionnants. Le livre donc sur la grande garde du lieutenant Ballet, selon sa correspondance, est quant à lui un peu plus court. Il fait 260 pages avec également des images et des photos d'archives, ce qui permet d'éclairer encore mieux le texte. Alors,
je peux ajouter deux petites choses, à savoir qu'André Ballet donc est rentré dans sa ferme de Fontenay-sur-Eure en janvier 1919 et qu'il a été élu maire de sa commune de Fontenay à la fin de l'année 1919. Et il est resté maire de cette commune jusqu'à sa mort en 1942. Donc il a eu aussi un rôle important, un rôle public important. Il a été aussi conseiller général, président du comice agricole. Donc c'est quelqu'un qui a fait aussi pas mal de choses. chose pour ses, hein, ses contemporains. Et puis autre chose, pendant la guerre, et ça, ça n'est pas si fréquent, il a été envoyé combattre en Serbie, hein, à la suite d'une erreur, d'une confusion avec un autre André Ballet. Et quand j'ai vu ça en lisant les lettres hein, petit à petit, quand je suis arrivée à ce passage dans lequel il annonce à sa femme qu'il va partir en Serbie, il dit « Ah, peut-être une erreur, je suis signalé Ballet avec un seul L », là, je me suis dit vraiment, ça, c'est à raconter, parce que hein, ça ne s'invente pas aussi dans un roman. Et là, c'était presque romanesque, alors qu'on est en pleine guerre. Et c'est l'occasion aussi de parler des combats en Serbie, parce que le front oriental par rapport au front occidental est beaucoup moins connu. Donc, oui. C'était aussi, ça me paraissait intéressant.
Tout à fait. Il est moins connu, mais il est extrêmement important pour la victoire.
Absolument, oui. Ouais. Donc, ça permettait d'évoquer ce front.
Ouais, hein, ouais, voilà. Oui. Tout à fait passionnant. Alors Lydie Delanoux, quels sont vos projets actuels, si il est possible pour vous de nous les dévoiler?
Il n'y a pas pour l'instant de projet bien déterminé. J'ai eu accès à un premier carton de vieux papiers, parce que vous avez compris que les vieux papiers, c'était mon dada, hein, mais qui concerne Lyautey. Ah. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites sur Lyautey. Alors, moi, j'ai envisagé éventuellement, mais c'est vraiment, ça reste une hypothèse, la partie de la vie de Lyautey où il a passé quelque temps en Indochine. C'est un endroit du monde aussi où je suis allée en voyage et qui m'intéresse également. Mais bon, je n'ai pas encore tranché. J'ai commencé quelque chose. Est-ce que je continuerai ou pas? On verra. Sinon, à côté, j'écris également des petits romans policiers parce que j'aime bien raconter des histoires aussi. Ouais. Hein. Bon, j'étais d'abord prof de français, donc ça, je crois que ça vient de là. Et bon, ça m'amuse aussi de profiter justement des voyages que j'ai pu faire pour les intégrer ce que j'ai vu dans des histoires policières. Mmh. Alors, par exemple, le petit roman policier qui est sorti en juillet de cette année s'intitule « Les chevaux de San Marco ». Et donc, j'ai fait balader mes personnages fictifs depuis Venise jusqu'à Istanbul.
Et chez quel éditeur?
Alors, c'est Edilivre, hein, parce que ce sont des petits romans. Et donc, je me suis dit, bon, je vais proposer ces romans à Edilivre. Et puis, ma foi, ça fonctionne pas mal. Hein, et donc, le premier, c'est Clair Obscur, publié l'année d'avant, qui se déroule à Orléans et à Tours. Hein. J'ai noyé, je dis souvent, quelques personnes dans la Loire et le Loiret. Et finalement, ça fait pas de mal. C'est par rapport aux recherches historiques où il faut être vraiment très sérieux et voilà, comparer plein de choses. Là, bah, c'est la grande liberté, forcément.
Il nous reste une minute, Lydie. Est-ce que vous allez dans les collèges et les lycées, justement, en Eure-et-Loire pour parler de Noël Ballet ou d'André Ballet?
Je suis allée au collège des Issureurs au mois de juin avec d'autres collègues auteurs. Donc, c'était cette année. Et puis, quelqu'un m'a demandé si j'étais d'accord pour aller au collège de Bue en 2019. Et j'ai dit que oui, au contraire. Hein. Et justement, à Issy-sur-Eure, j'ai eu des classes de 3e, 4e, 6e. J'avais emporté avec moi la fameuse boîte à pantoufles et j'ai montré des lettres de guerre et les lettres d'enfants, notamment.
Super.
Et,
hein,
voilà. Et quelques élèves ont lu ces lettres d'enfants. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant à faire.
Super.
Quoi. Et
très
je
bien.
Pense que j'en ferai d'autres. Hein.
Parfait.
Voilà, d'autres
très
visites.
Bien. J'espère en tout cas, j'espère pour les Auréliens, c'est quand même très important de connaître ces personnages qui appartiennent à notre histoire, qui font aussi partie du patrimoine. Et puis c'est important de savoir aussi le sens des noms de nos rues et savoir que quand on se promène, eh bien, on est au milieu des signes et des symboles et d'histoires qui sont quand même... qui sont importantes à connaître. Merci Lydie Delanoux de nous avoir éclairé avec ce que vous nous avez dit concernant ces deux personnages historiques. Bonne continuation à vous et j'engage les auditeurs à vous lire, c'est vraiment tout à fait passionnant. Et je donne rendez-vous bien sûr à tous les auditeurs au mois prochain pour un livre, un auteur sur Radio Grand Ciel.